En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Quand on est amené à prêcher tous les dimanches, il y a des évangiles qu'on préfère, puis d'autres avec lesquels on a du mal pour trouver quoi dire. Vous, très chers paroissiens et amis qui êtes ici aujourd'hui, d'autant plus que vous le voyez au-dessus de nous, sur la poutre qui est en haut, c'est marqué « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et en lisant cet évangile, on a l'impression que Jésus dit exactement le contraire, en disant « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », etc. Est-ce que Jésus, par hasard, nous dirait de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer nos enfants, de ne pas aimer notre vie, alors on n'y comprend plus rien, on se demande qu'est-ce qui se passe. Peut-être faut-il, dans ces cas-là, essayer de resituer ces paroles de Jésus dans le contexte, et lire avant et après dans les évangiles pour s'apercevoir que Jésus parle beaucoup d'opposition, de persécution, donc de crise, et d'attitude qu'on doit prendre dans des moments qui sont des moments tranchants, je veux dire par là des moments décisionnels, où il y a une décision à prendre pour ou contre. Et ainsi, on comprend mieux que Jésus nous dise dans ces cas-là, quand vous êtes acculé à devoir faire un choix à cause de la persécution, eh bien, sachez faire le bon choix et soyez prêts, déjà, dès maintenant, à le faire, vérifiez vos attachements. Et quand Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas », on se demande comment Jésus a pu dire une telle parole. Pour nous, c'est mystérieux. Alors on se dit, est-ce qu'il avait déjà dans l'esprit qu'il allait mourir sur la croix? Très probablement. Puis en même temps, on peut se dire que les crucifixions à l'époque de Jésus, sur les routes romaines, parsemaient l'ensemble de l'Empire, c'était vraiment monnaie courante pour les fauteurs de troubles publics. D'ailleurs, quand Jésus a été crucifié, c'était en dehors de la ville de Jérusalem, précisément pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse se moquer de lui, comme on le faisait à l'époque de tous ceux qui subissaient ce châtiment infâme. Et donc, Jésus fait comprendre que, nous devons, à certains moments, faire le choix, un choix plus haut que celui de l'attachement à notre propre vie. S'il faut confesser notre foi en Dieu au prix de notre vie, Jésus nous y appelle. Donc vous comprenez que ces paroles de Jésus ont été prononcées dans un contexte plutôt de persécution et de choix à faire, mais en même temps que ça suppose de notre part toute une persécution. Et Jésus dit, dans vos attachements, il y a ceux qui précèdent, alors il parle des parents, il y a ceux qui suivent, il parle des enfants, puis il y a vous-même au milieu, dans le présent, dans la génération présente, il y a votre propre vie, et soyez prêts à tout laisser du passé, de l'avenir, du présent, s'il faut me choisir, moi, dit Jésus. Alors nous savons que il y a eu beaucoup de martyrs au début de l'Église. Quand on va à Rome, le Colisée est là pour nous le rappeler, mais même Saint Saturnin, c'est pas ici, on est chez Saint Aubin ici, mais Saint Saturnin, il est mort martyr en 250 à Toulouse. Et le pape Jean-Paul II et le pape François à sa suite disent qu'il y a plus de martyrs aujourd'hui qu'il n'y en a eu au début de l'Église. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive fréquemment pour de nombreux chrétiens. Et donc, avoir conscience que notre vie appartient au Christ, que notre vie centrée sur nous-mêmes, ce que dans la deuxième lecture, ce qui est appelé mort au péché, mis au tombeau avec Jésus, uni à la mort de Jésus par le baptême, nous avons perdu une vie dans le baptême, passage à travers l'eau, à la mort et la résurrection, nous avons perdu une vie qui est centrée sur nous-mêmes, donc une vie qui ne peut pas déboucher sur la vie éternelle, et nous avons gagné une vie qui est tout entière tournée vers Dieu et vers les autres, une vie qui est alimentée par la charité, par l'Esprit de Dieu, une vie qui est alimentée par la résurrection du Christ. Enfin, la première lecture, cet épisode un peu curieux du prophète Élisée, c'est au 9e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Élisée qui est à l'étranger, en dehors de son territoire, et qui va loger chez une personne sans doute assez riche, avec qui il va nouer une relation longue, parce qu'il y a d'autres épisodes dans l'Écriture qui concernent cette relation d'Élisée avec cette famille. Et le premier épisode, c'est parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il leur annonce qu'ils auront un enfant dans un an. Voilà. Et puis il y aura un autre épisode où l'enfant, malheureusement, je ne sais plus en quelles circonstances, mais manquera de mourir et même va mourir, et où Élisée va le rappeler à la vie. Et puis il y aura encore un troisième épisode où Élisée va annoncer qu'il y aura une famine dans la région pendant 7 ans et donc il faut partir. Et elle le fera avec son mari et son enfant. Et cette relation d'Élisée avec cette famille étrangère est comme aussi une annonce de l'universalisme, du message de l'amour de Dieu, une image de cet amour universel que Dieu veut nous transmettre et que nous partagions avec tous les hommes. Et la conscience alors que voilà, nous sommes habités par l'amour de Dieu, nous sommes en mission avec ce don de l'amour de Dieu, et cette tsunamite, cette habitante de Sunam, quand elle voit le prophète Élisée, dit à son mari, c'est un homme de Dieu et nous devons le recevoir comme un homme de Dieu. Et donc on va lui faire à l'étage une petite pièce où il pourra se retirer quand il passera par là. Voilà. Et Jésus dans l'évangile dit la même chose au fond, celui qui vous accueille m'accueille, celui qui a conscience en vous accueillant de qui vous êtes, il m'accueille, moi Jésus qui vous a envoyé, et en m'accueillant il accueille le Père qui m'a envoyé lui. Mais s'ils ne vont pas jusque-là, s'ils vous accueillent simplement comme un prophète, eh bien, en sa qualité de prophète, ils recevront une récompense de prophète. S'ils ne sont pas capables, s'ils voient en vous simplement des hommes religieux, justes, en qualité d'hommes justes, eh bien, ils recevront une récompense de juste. Mais s'ils ne sont même pas capables d'aller jusque-là et qu'ils simplement ils disent oh, ben, c'est un chrétien, un disciple de Jésus, et qu'il vous donne un verre d'eau fraîche, eh bien, voilà, ils ne perdront pas non plus leur récompense. Autrement dit, nous sommes capables de recevoir selon le regard que nous portons en profondeur sur la personne que nous accueillons, et nous sommes aussi capables de transmettre selon la conscience que nous avons de notre dignité. Si on n'a pas conscience de grand-chose, on ne pourra pas transmettre grand-chose. Si vraiment on se sent porteur de la présence de Jésus, on pourra plus, me semble-t-il, le transmettre. Voyez cet évangile, ces trois lectures sont un peu foisonnantes, on ne sait pas très bien dans quelle direction aller, puis en même temps, bon, il y a des lumières qui nous sont transmises pour nous aider à cheminer, à réfléchir sur notre vie, à faire des choix, à rectifier des choses. Et c'est ainsi, chaque dimanche, nous recevons notre ration de parole de Dieu pour pouvoir avancer un peu plus profondément dans notre mission de chrétien dans le monde.